Le jour du Seigneur est proche dans le val du verdict. Le soleil et la lune sont obscurcis, les astres perdent leur éclat. Il rugit, le Seigneur, à partir de Sion et de Jérusalem, il donne de la voix. Et le ciel et la terre sont ébranlés. Mais le Seigneur est un refuge pour son peuple. Il est une retraite pour les Israélites. Et vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur, votre Dieu, qui réside en Sion, mon saint, ma sainte montagne. Jérusalem sera un sanctuaire. Et plus jamais les étrangers n'y passeront. Alors, en ce jour-là, le vin nouveau coulera des montagnes et les couteaux ruisselleront de lait dans tous les torrents de Juda. L'eau coulera et du temple du Seigneur jaillira une source et elle arrosera le val des Acacias. L'Égypte deviendra une désolation et Édom un désert à cause des violences qu'ils ont commises contre les Judéens, dont ils ont répandu le sang dans leur pays alors qu'ils étaient innocents. Quant à Juda, il sera toujours habité, Jérusalem sera toujours habité d'âge en âge, et je leur pardonne, eux dont le sang a été répandu et auxquels je n'avais pas pardonné. Le Seigneur habitera en Sion. Jusqu'ici, notre lecture. Dans les versets qui précèdent le texte que nous venons de lire, Joël a annoncé déjà l'arrivée du jour du Seigneur, qui sera un jour particulier, le jour du Seigneur, un jour qui sera différent de tous les jours du Seigneur connus, annoncés jusqu'alors. Ce jour-là sera d'une part un jour de jugement et d'autre part un jour du salut pour quiconque invoque le nom du Seigneur, sans distinction d'âge, ni de sexe, ni de condition sociale. Dans ce dernier chapitre, Joël va prendre le temps pour décrire davantage la nature de ce jugement et de ce salut. Du verset 1 au verset 17, Joël va développer le thème de jugement et dans les versets 18 à 21, celui du salut. Chacune de ces deux parties bien distinctes commence par l'expression « en ces jours-là » ou bien « en ce jour-là ». Et plus encore, à l'intérieur de chacune de ces parties, Joël structure d'une manière remarquable tout le message qu'il allait transmettre. C'est un message bien construit que Joël délivre ici pour annoncer, transmettre la parole du Seigneur. Je voudrais tirer juste une très rapide conclusion sur ce point. Il me semble que les efforts, l'une des conclusions qu'on peut tirer de manière rapide de ces efforts de structuration que Joël déploie ici pour transmettre la parole de Dieu est le fait que le Seigneur se serve des facultés poétiques, intellectuelles, de ses serviteurs, des hommes et femmes, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils sentent pour transmettre sa parole. En effet, la Bible est parole de Dieu et aussi parole humaine. Cela n'est pas tout à fait la conception, par exemple, dans d'autres religions. Je pense en particulier ici à l'islam. Le Coran est considéré par les musulmans comme parole de Dieu, mais pour eux, elle est uniquement parole divine, c'est-à-dire une parole qui est dictée par Dieu. Il n'y a aucune intervention humaine, si vous préférez. Telle n'est pas la conception de la Bible. Et je pense, parfois, on voit que dans la Bible, Dieu s'est servi des capacités humaines, de leur imagination, de ce qu'ils ressentent, pour transmettre son message. Et parfois, dans certains de nos milieux évangéliques, chrétiens, on considère qu'il se fait juste ouvrir la bouche pour que Dieu parle, et donc il ne faut pas préparer ses notes pour transmettre, entre autres, ces messages. Bien sûr, un message n'est pas placé sur le même niveau que la parole de Dieu, mais on pourrait quand même tirer une conclusion. Certains diraient que le Seigneur, de toute manière, parlera, il se fait juste de lui faire confiance, donc inutile de se préparer. Et il me semble que cette conception des choses se rapproche davantage de la conception musulmane de considérer la parole de Dieu que de la conception vraiment biblique de considérer la parole de Dieu. On voit ici que le prophète prend le temps de bien préparer le message qu'il veut transmettre et bien le structurer. Donc il met en œuvre tout l'effort d'adaptation, de préparation nécessaire pour que le message soit transmis. Voilà pourquoi je pense, il me semble, qu'il vaut mieux préparer ses notes et qu'il vaut mieux préparer son note pour transmettre son message que de ne rien préparer pour passer 30 voire 40 minutes à dire toujours la même chose, pour ne pas dire ce qu'on pourrait résumer dans une seule phrase, ce qui souvent se passe dans ces milieux-là auxquels je fais allusion. Certes, il y a des répétitions utiles, mais ces répétitions-là sont calculées, bien sûr, elles sont bien réfléchies. Revenons maintenant, après cette petite conclusion rapide de juste la forme, la structuration du message de ce chapitre de Joël. Revenons maintenant à ce texte. Qu'est-ce que Joël nous dit dans ce chapitre? Dans cette première partie, Joël utilise deux thèmes pour décrire le rassemblement, pour décrire le jour de jugement, ce jour du Seigneur, le jour à venir. Le jour du Seigneur, ce jour à venir. Et ces deux thèmes, c'est d'une part le rassemblement des nations, c'est dans les 8 premiers versets, et d'autre part, le jugement de ces nations. L'expression « en ces jours-là » ou bien « en ce temps-là » renvoie au jour du Seigneur annoncé au chapitre 3. En ce jour-là, le Seigneur réalisera deux rassemblements. D'une part, il va rassembler son peuple, les captifs de Juda et de Jérusalem, et d'autre part, il va rassembler les nations. Mais il ne faut pas se tromper. Ces deux rassemblements auront des fins complètement différentes. Les captifs de Juda et de Jérusalem recevront le salut. Les nations recevront leur jugement en ce jour du Seigneur. La restauration de Jérusalem, de Juda, n'est autre que le salut qui sera offert à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, comme ça a été annoncé dans le chapitre 3, le chapitre précédent, au verset 5. Ceux-là recevront l'Esprit de Dieu, ils prophétiseront de la part de Dieu, c'est-à-dire ils seront des porte-paroles du Seigneur, des témoins du Seigneur. C'est ce que donc Joël a bien déclaré au chapitre 3, et c'est ce que nous avons essayé de dire aussi dimanche dernier. Mais le deuxième rassemblement concernera les nations. Le Seigneur rassemblera dans la vallée de Josaphat les nations, et il entrera en jugement contre ces nations-là. Habituellement, les nations, ce sont de leur propre gré qu'elles se liguent contre le Seigneur. Mais ici, c'est le Seigneur qui les rassemble. C'est une manière de souligner la souveraineté de Dieu. Rien ne peut échapper au Seigneur. C'est lui, y compris ce rassemblement, c'est lui qui le dirige. S'il ne peut en tout cas échapper à son contrôle. C'est une manière de dire que le Seigneur conduit toutes choses. Les vallées sont souvent utilisées pour des grands rassemblements et souvent aussi pour des affrontements militaires. C'est le cas par exemple de la bataille que Abraham avait menée pour libérer son neveu Lot. Et encore la bataille contre la ville de Haï, conduite par Josué. Donc souvent ces vallées-là sont des lieux où on se livre bataille, il y a des combats. Mais dans notre texte, la vallée de Josaphat n'est pas une vallée d'un simple rassemblement, n'est d'ailleurs une vallée d'une bataille militaire, mais c'est une vallée d'un procès, du procès des nations. C'est une vallée transformée en cour d'assises. Le Seigneur entre en jugement avec les nations. Il y a bien entendu beaucoup de tentatives pour identifier la vallée de Josaphat, c'est-à-dire sur une carte géographique, mais elles ne sont pas vraiment très très satisfaisantes. En fait, ce qu'il faudrait voir par là, la vallée de Josaphat ne renvoie pas spécialement à un lieu, un endroit géographique précis, mais tout simplement à tous ces lieux où le Seigneur entre en jugement contre les nations. D'ailleurs, le nom de Josaphat veut dire « le Seigneur est juge, le Seigneur juge ». C'est cet aspect de jugement de Dieu que souligne donc le prophète ici. L'objet de ce jugement, l'objet de ce procès, pardon, que le Seigneur intente aux nations, n'est autre que l'atteinte au peuple du Seigneur. Toutes les attaques, toutes les agressions, toutes les violences perpétuées contre le peuple du Seigneur, c'est contre le Seigneur qu'elles ont été commises. Ça fait penser à la parole que le Seigneur lui-même adressera par la suite, le Seigneur Jésus adressera à l'apôtre Paul. Il n'était pas encore l'apôtre Paul, hein, sur le chemin de Damas. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors que Saul, jusqu'à maintenant, a persécuté uniquement les enfants de Dieu. Mais c'est une manière de dire, s'attaquer au peuple de Dieu, c'est s'attaquer tout simplement à Dieu lui-même. Les chefs d'accusation décrits par Joël contre les nations sont nombreux. Déportation, exploitation des personnes humaines au point de les utiliser comme une monnaie d'échange, la vente des enfants à des prix dérisoires, soit des prix d'une prostituée ou bien même pour quelques litres de vin, ils vendent des enfants. Les jeunes filles israélites ont été utilisées par cette coalition militaire comme un produit de consommation. Les soldats ennemis semblent n'avoir emmené ces enfants que pour le plaisir d'assouvir à leur instinct de violence, de brutalité, et, ou bien tout simplement avec le désir de vouloir humilier et de faire souffrir pour se débarrasser par la suite de ces victimes, de toutes ces victimes. Au verset 6, il est question de la traite des enfants de Judée et de Jérusalem. Les peuples alimentent un marché d'esclaves en vendant les Judéens pour les Ioniens. Les Ioniens, c'était un peuple qui est entré en contact avec les Phéniciens qui sont mentionnés dans le texte très rapidement pour des raisons commerciales. Et l'Ancien Testament, ici, mais tout l'Ancien Testament, dès le début jusqu'à la fin, s'élève d'une manière forte contre toutes les atteintes à la personne humaine, contre toute forme d'oppression, contre toute forme d'exploitation de l'homme, l'homme fait en image de Dieu. Le Seigneur fait un autre reproche à ces nations ennemies, un reproche d'ordre culturel. Elles ont pris son argent, son or, elles ont pris ce qu'il avait de plus précieux, de plus beau, pour les emporter dans leur temple et les offrir à leurs idoles. Cette attitude des nations peut être comprise comme une volonté de défier le Dieu d'Israël. Les objets du Seigneur sont offerts aux idoles, c'est comme si les idoles sont finalement les plus fortes que le Seigneur et l'emporte sur le Dieu vivant et vrai. Et tous ces agissements contre le Seigneur et contre son peuple ne peuvent laisser le Seigneur indifférent. Tout en restant le juge, le Seigneur se porte aussi partie civile pour faire entendre sa cause et faire entendre la cause de son peuple frappé, humilié et dévasté. Pour rendre le procès plus concret, le Seigneur utilise deux peuples païens pour représenter toutes les nations. Les Phéniciens, Tyre et Sidon sont les grandes villes des Phéniciens, et puis les Philistins. Le prophète Amos aussi fera les mêmes reproches à ces peuples dans son livre, au chapitre 1, donc les versets 6 et 9. Puisque ces nations ne veulent pas s'arrêter dans leur folie, le Seigneur interviendra et fera tomber leur vengeance sur leur tête. Dans les versets 9 à 12, le Seigneur rassemble les nations en vue du jugement. Il les convoque, il les appelle à se préparer pour le combat. Les nations se mobilisent, se préparent pour combattre contre le Seigneur, au lieu de se repentir de leurs crimes, comme Judas l'avait fait au chapitre 2, lorsque le Seigneur est entré en jugement contre elle. Judas, au chapitre 2, le Seigneur aussi lui a fait des reproches, mais Judas s'est humilié devant le Seigneur, et le Seigneur lui a pardonné son péché. Ici, les nations ont adopté une autre attitude. Les nations ont décidé de se mobiliser, de se préparer pour aller au combat contre le Seigneur. Les nations se sont entêtées contre le Seigneur et le résultat des courses, c'est le châtiment. La vallée de Josaphat, évoquée au chapitre 2, au verset 2 et au verset 12, devient au verset 14 la vallée de jugement, la vallée de verdict, de la condamnation et de l'exécution. Ce jugement se manifestera concrètement par une guerre entre les deux armées. D'un côté, l'armée de la coalition internationale, et de l'autre côté, l'armée du Seigneur. Mais l'armée du Seigneur dont il est question ici, est formé de guerriers qui descendent d'en haut. Ces guerriers ne sont autres que les anges du Seigneur qui viennent combattre pour le compte du Seigneur. Dans cette armée du Seigneur, n'est pas formée du peuple de Dieu, des Judéens ou des Israélites. Les Judéens et les Israélites n'ont pas à combattre contre cette coalition internationale. Mais c'est le Seigneur lui-même qui les combattra par l'intermédiaire de ses anges. Face à cette armée qui s'affole, qui se mobilise, qui se rassemble, le Seigneur siège sereinement. Il siège sereinement pour exécuter son jugement, un jugement décrit dans les versets 13 à 17. Le champ de bataille couvert par l'armée de la coalition est comparé à un champ de blé. La moisson est prête pour être faussiée. L'armée de la coalition est comme un pressoir plein. Les cuves regorgent. L'iniquité des nations a atteint son comble. Le jus dont s'engorgeaient les raisins, la méchanceté des nations abonde tellement que les cuves débordent une fois les raisins pressés. Le péché a atteint la mesure, ou plutôt parler peut-être de la démesure maximale, aussi bien en qualité qu'en quantité. Le jour du Seigneur est proche. Le jour du Seigneur, le jour du jugement est proche. Et en ce jour-là, le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles retirent leur éclat. De Sion, le Seigneur surgit de Jérusalem, il fit entendre sa voix, les cieux et la terre sont ébranlés. Tous ces signes dans les parties visibles du cosmos rappellent les interventions du Seigneur, les jugements du Seigneur dans le passé, et tout particulièrement celui manifesté à l'égard de Juda au chapitre 2 par une autre armée. Ce ne sont pas les anges, mais c'était les sauterelles. De la même manière que Juda a été jugé pour sa désobéissance, les nations vont être jugées aussi pour leur méchanceté. Désormais, tous devront rendre des comptes pour leurs agissements devant le Seigneur en ce jour-là. En ce jour-là, le peuple de Dieu trouvera refuge auprès du Seigneur. En ce jour-là, le peuple de Dieu trouvera un abri auprès de son Dieu. Ainsi, ce jour-là sera pour le peuple de Dieu un jour de salut, un jour de délivrance. Non pas qu'en ce jour-là, le peuple de Dieu aura peur de cette armée terrible, mais non, c'est le jour lui-même, c'est le jugement du Seigneur, c'est l'intervention du Seigneur qui sera terrible et tous auront besoin d'un refuge. Et ce jour-là, le peuple du Seigneur trouvera refuge auprès de son Seigneur, trouvera délivrance auprès de son Seigneur. En résumé, le jour du Seigneur sera pour les uns un jour de jugement, mais pour les autres un jour de salut. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a pas de place intermédiaire, soit le salut, soit le jugement. En dernière chose, sur ce jour du Seigneur, personne ne peut échapper à ce rassemblement. Tous seront rassemblés, les nations et le peuple de Dieu. En ce jour-là, chacun recevra sa récompense du Seigneur. Comme nous l'avions dit dimanche dernier, ces deux aspects de l'intervention de Dieu, salut et jugement, se sont manifestés dans la venue de Jésus-Christ dans notre monde. Voici comment le but de la venue de Jésus dans le monde nous est présenté par l'évangéliste Jean. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu unique. Nous avons dans cette déclaration de Jésus les deux volets du jour du Seigneur prédit et annoncé par le prophète Joël. Et il y a le salut pour les uns, le jugement pour les autres. En effet, ceux qui croient en Jésus ont la vie éternelle. Ceux qui croient en Jésus ont le salut qu'offre le Seigneur à tous ceux qui se tournent vers lui et qui font appel à lui et qui font de lui leur refuge. Vraiment, je vous l'assure, dit Jésus, Celui qui écoute ma parole, qui croit mon Père qui m'a envoyé, possède dès à présent la vie éternelle. Et il ne sera pas condamné, il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et tous ceux qui l'auront entendu vivront pour toujours. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, les versets 24 et 25. Ceux qui croient en Jésus reçoivent le pardon de leurs péchés. Ceux qui croient en Jésus reçoivent le pardon de leur désobéissance, de leur méchanceté, parce qu'ils ne sont, sont pas meilleurs que les autres. Car Christ a payé le prix de leur condamnation, et de la sorte, il les a déclarés justes devant Dieu. Avec ce statut de justifié, ils sont sauvés de la colère à venir au jour du jugement. Ils auront le Seigneur pour refuge le jour du jugement, au jour dernier. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé dès Jésus parce qu'il n'a pas cru au nom de Fils unique de Dieu, disait Jésus au chapitre 3, au verset 18 de l'évangile de Jean. Personne n'est exclu par le Seigneur, car Dieu veut que tous les hommes, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur aussi entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné en rançon pour tous. Être conscient que seule la foi en Jésus sauve implique ou devrait inciter les non-chrétiens à croire, à réfléchir sérieusement, à croire en celui qui peut les sauver au jour du jugement. C'est lui seul, c'est lui le seul qui a le nom qui peut être par lequel nous pouvons être sauvés, pour reprendre les paroles des premiers chrétiens. Je ne peux que vous encourager, si l'un ou l'autre n'a pas encore fait cette démarche, à mettre sa confiance en Jésus-Christ, à faire de Jésus-Christ son refuge, son salut, comme l'a annoncé le prophète Joël. Car au jour du jugement, aucune richesse, aucune œuvre religieuse d'ailleurs, rien ne pourra vous délivrer de ce jugement, sinon le Seigneur Jésus lui-même qui a déjà payé le prix de la désobéissance humaine sur la croix. J'aimerais aussi encourager nous, ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur, ceux qui sont chrétiens, ceux qui croient en Jésus-Christ, j'aimerais nous encourager à prendre très au sérieux le témoignage auprès que nous pouvons rendre aussi bien du Seigneur dans notre vie que de ce que le Seigneur a fait dans l'histoire, auprès de nos amis, de nos familles, auprès de nos collègues. Tous ces prochains que le Seigneur place sur notre chemin, soyons des témoins de l'amour de Dieu auprès d'eux. Soyons des témoins de Jésus, de l'œuvre de Christ auprès de tous ceux qui nous entourent. Et témoignons de notre Seigneur. Disons-leur, tant qu'il fait encore jour, tant que le jour du Seigneur n'est pas encore, en tout cas le jour final n'est pas encore arrivé. Ceux qui croient en Jésus seront au bénéfice des bienfaits du Seigneur, des bienfaits qui vont bien au-delà de tout ce qu'on peut espérer ici-bas, comme d'ailleurs le décrit le prophète Joël dans les versets 18 à 21. Le premier bienfait à souligner, c'est la source d'eau qui sortira du temple du Seigneur, qui arrosera la vallée de Chittim. Suite à la sécheresse, Judas souffre terriblement de manque d'eau. Et déjà, en temps normal, Judas est presque à sec une bonne partie de l'année, à plus forte raison, suite à la sécheresse qui vient de frapper le pays, qui est décrite au premier chapitre. La situation s'est aggravée. Et le prophète annonce que l'eau désormais ne manquera plus. Du moins, il ne manquera pas au jour du Seigneur. À partir du jour du Seigneur, l'eau coulera à flot. Il n'y aura plus de manque. Le peuple de Dieu sera au bénéfice de cette source d'eau. Cette source d'eau arrosera la vallée de Chittim. Une vallée, encore une fois de plus, à ne pas chercher sur une carte, mais c'est une vallée qui peut, comme la vallée de Josaphat, mais dont le nom est simplement et symbolique, qui signifie la vallée des acacias. La vallée des acacias, nous savons par ailleurs que le bois d'acacia qui est utilisé pour fabriquer les objets et qui est fabriqué pour fabriquer les objets pour servir le culte du Seigneur, sont, tous ces objets-là sont fabriqués par le bois des acacias. C'est le cas, par exemple, de l'arche, c'est le cas de la table des pains de proposition, c'est le cas du tabernacle, de l'autel, etc. C'est une manière de dire les objets servant au culte ne manqueront pas jamais, ne manqueront plus jamais. Au premier chapitre, la vie cultuelle a subi les conséquences du passage des sauterelles. Les offrandes et les libations ont disparu de la maison du Seigneur. Plus de culte dans le temple, une manière de dire plus de relations entre le Seigneur et son peuple, parce qu'il n'y a rien à offrir au Seigneur. Ici, au contraire, dans ce texte, Joël annonce que la source d'eau qui sort du temple continuera à assurer elle-même la survie des éléments permettant de s'approcher du Seigneur, de célébrer son culte. C'est une manière de dire encore l'engagement du Seigneur pour cette alliance qu'il allait accomplir avec son peuple. Le Seigneur se chargera lui-même, d'une part, de donner de l'eau en abondance à son peuple, et de ce fait, le pays produira ses récoltes, et d'autre part, assurer la survie des matériaux permettant de fabriquer les ustensiles pour célébrer le culte du Seigneur. Le deuxième bienfait souligné par Joël dans les deux derniers versets, c'est la présence du Seigneur au milieu de son peuple. Juda sera toujours habité, Jérusalem de génération en génération, et au verset 21, le Seigneur résidera dans Sion. Autrefois, la présence du Seigneur au sein du peuple est présentée ou représentée par la présence de l'arche. Mais ici, Joël annonce que c'est le Seigneur lui-même qui habitera, qui résidera au milieu de son peuple. À vrai dire, le temple dont sort la source d'eau que nous avons évoquée n'est autre que le Seigneur lui-même. C'est de lui que vient cette source. C'est de lui que vient cette source d'eau qui arrose, qui nourrit et qui purifie tout le peuple de Dieu. Grâce à la présence du Seigneur, le peuple de Dieu connaîtra beaucoup de bienfaits, mais celui, peut-être qui les surpassera tous, c'est celui de le connaître, lui, connaître le Seigneur, de connaître le Seigneur, le vrai Dieu. Par la bouche du prophète Jérémie, le Seigneur disait que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis le Seigneur. Et au chapitre 33, toujours du livre de Jérémie, le Seigneur annonce une nouvelle alliance qu'il allait conclure avec son peuple. Une alliance permettant à chacun, à chaque croyant, de connaître personnellement le Seigneur. « Tous me connaîtront, dit le Seigneur, depuis le plus petit d'entre eux, d'entre le peuple, jusqu'au plus grand, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Jérémie 31, les versets 31 à 34. Connaître le Seigneur conduira le peuple à se purifier, à se consacrer pour son Dieu, à vivre en présence de son Dieu et sous la direction de son Dieu. Là encore, en Jésus-Christ, Dieu a conclu cette alliance nouvelle annoncée par les prophètes. En Jésus, nous connaissons Dieu d'une manière personnelle. En Jésus, nous connaissons Dieu d'une manière personnelle, non pas seulement d'une manière collective, autant qu'Église, autant que peuple de Dieu, mais aussi autant qu'individu, personnellement. L'évangile de Jean nous présente Jésus comme le nouveau temple, le lieu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est de ce temple-là, de Jésus-Christ, que jaillisse l'eau vive annoncée par le prophète Joël. C'est pour cela que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. » Car comme dit l'Écriture, les fleuves d'eau vives jailliront de son sein. Et là, il cite la parole de Joël 4. Et Jean, l'évangéliste, commente cette parole de Jésus en disant, en parlant ainsi, Jésus faisait allusion à l'esprit qui devait que devaient recevoir plus tard ceux qui croient en lui, ceux qui croient en Jésus. Le Saint-Esprit, en effet, les croyants, ceux qui viennent à Christ, reçoivent l'Esprit de Dieu, reçoivent l'Esprit de Dieu de la part de Jésus et du Père Céleste. Et le Saint-Esprit, ainsi, purifie le croyant, nous purifie, purifie ceux qui croient en Christ. Le Saint-Esprit nous sanctifie, et il produit en nous ses fruits, et il nous rend capables de vivre d'une manière cohérente avec la vocation qui nous a été adressée. Et le Saint-Esprit poursuit cette œuvre qu'il a commencée en nous, et il l'amènera, comme dit l'apôtre dans l'Épître aux Philippiens, il l'amènera à son terme, à sa perfection. Le deuxième bienfait du Seigneur annoncé par Joël, c'est la présence continuelle du Seigneur auprès de son peuple. En effet, Jésus a déclaré dans les derniers versets de l'Évangile de Matthieu, tout à la fin, je serai avec vous jusqu'à la fin de tous les jours, jusqu'à la fin du monde. En Jésus-Christ, nous pouvons nous tourner, comme nous l'avons chanté, nous pouvons nous tourner vers Dieu en toute liberté. Nous avons un libre accès auprès du trône de la grâce, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4. Nous pouvons le faire dans les mauvais comme dans les bons jours. Nous pouvons nous tourner vers le Seigneur, car nous savons qu'en Jésus-Christ, le Seigneur continuera toujours à nous manifester sa fidélité et son amour. Il n'abandonne pas ses enfants, mais il a promis de répondre toujours à notre appel, à notre prière, à notre supplication par « Je suis ». À nous, très chers frères et sœurs, très chers amis, c'est à nous maintenant d'apprendre à tirer profit de la présence du Seigneur dans notre vie et en nous mettant régulièrement, aussi régulièrement que possible, à l'écoute de sa parole et bien sûr aussi pour lui dire et exprimer notre reconnaissance. Pour ceux qui ne bénéficient pas encore de cette présence de Dieu en Jésus-Christ dans leur vie, je vous encourage vraiment à bien réfléchir. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, nous serions vraiment très heureux de le faire. Et surtout, n'hésitez pas à venir nous solliciter à la fin du culte. Tout au long de son livre, Joël a annoncé l'arrivée du jour du Seigneur. Ce jour du Seigneur est arrivé, nous l'avons vu. Les auteurs du Nouveau Testament nous disent que c'est le jour où Jésus est venu. Et ce jour-là aussi se prolonge jusqu'au jour de son retour, où le jugement final sera prononcé. Ce jour est arrivé en Jésus. C'est ce que les auteurs du Nouveau Testament n'ont cessé de démontrer, notamment en citant le livre de Joël, entre autres. Mais maintenant, c'est à chacun d'entre nous, de tirer toutes les conclusions concrètes pour notre vie présente d'aujourd'hui, à la lumière de cette œuvre du Seigneur, dans le passé, lorsque Jésus est mort sur la croix, ressuscité le troisième jour, et à la lumière aussi du jour à venir, le jour de jugement, où chacun devra rendre compte de sa vie, de ses actes. Car il y a une chose qui est certaine, qui est sûre, c'est qu'au dernier jour, au jour du Seigneur, le jour où Jésus reviendra, il y aura un grand rassemblement. Ceux qui auront cru seront sauvés, ceux qui auront refusé de croire seront condamnés par eux-mêmes, parce qu'ils s'excluent eux-mêmes de salut, de refuge que Dieu va offrir, que Dieu offre en Jésus-Christ. C'est pourquoi je ne peux que prier, nous ne pouvons que prier pour que le Seigneur vraiment éclaire chacun d'entre nous ici présents pour prendre des décisions sages, sensées et intelligentes dès maintenant. Amen.